Del Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture, un mercredi sur deux sur Radio G. Salut les gars.
Salut Seb.
Comment ça va?
Salut Pablo.
Alors ce soir, c'est une émission science-fiction.
Bah ouais.
Ça vous dit?
Eh oui.
Nous venons d'entrer dans la quatrième dimension.
De démarrer avec un morceau de David Bowie.
Ça
s'appelle Starman.
Ça tombe bien.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Et voilà, c'était David Bowie avec Starman dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le poids.
Alors, un petit jingle et puis ensuite une petite introduction au sujet par Pablo. Allez. Qui a bien préparé cette émission comme d'habitude.
Oh.
Parce qu'on aime préparer cette
mais
émission.
Mais oui.
Un petit jingle, Pablo, c'est parti?
Allez, c'est parti.
Allez, on y va.
Creature Shock Radio FM.
Alors ce jingle, il va parfaitement. Ben oui, alors on pourrait se demander d'ailleurs qu'est-ce que c'est que la science-fiction, hein. C'est parce que vous allez voir que alors c'est un genre narratif principalement littéraire, hein, littéraire, bande dessinée, cinématographique et vidéoludique. Mais alors si on veut tenter d'en donner une définition, parce que pour moi on va voir que c'est pas évident en fait, hein. Comme son nom l'indique, elle consiste à raconter des fictions reposant sur des progrès scientifique et technologique obtenus dans un futur plus ou moins lointain. Il s'agit en général d'anticipation, parfois dans un passé fictif ou dans un univers parallèle au nôtre. Elle met ainsi en œuvre des progrès physiquement impossibles, au moins en l'état actuel de nos connaissances, donnant des thèmes classiques, genre le voyage dans le temps, le voyage interplanétaire ou interstellaire, la colonisation de l'espace ou la rencontre avec des extraterrestres. Et puis alors, de façon un petit peu plus réaliste parfois, malheureusement, la confrontation entre l'espèce humaine et ses créations, type robots ou clones, et puis jusqu'à la catastrophe apocalyptique planétaire.
Oh là là.
Mais oui. Alors, on pourrait peut-être, alors les historiens que vous êtes, on pourrait peut-être la faire remonter la science-fiction. Alors, je vais pas remonter à Homère, hein, mais au moins à l'utopie de Thomas More, voire Cocorico, 1650 dans notre chère France, l'histoire comique des États et empires de la Lune par Cyrano de Bergerac.
Mais oui.
C'est vrai, non?
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Et alors, bon, après, voilà, on va avoir des propositions aussi diverses dans ces dernières années que Les Furtifs d'Alain Damasio, ou La Horde du Contrevent, son chef-d'œuvre, ou alors Dune, qu'on évoquait, bien sûr.
Frank Herbert.
Voilà, Frank Herbert, et dernièrement porté à l'écran par Denis Villeneuve. Ou encore un film que j'ai vu là qui s'appelle The Substance de Coralie Forja. Voilà, voilà. Et donc, enfin, tout ça pour vous dire qu'en bref, on va sans doute avoir du mal à définir vraiment la science-fiction, tant elle touche à des genres très divers, très différents. En tout cas, elle nous emmène sur une expérience de pensée.
Waouh.
Voilà.
Et c'est vrai qu'on va parler de tous les sous-genres de la science-fiction.
Ils sont très
nombreux.
Je dirais même, tu as eu du nez. Ou référence à ce que tu viens de dire.
Ouais. Ah oui, Cyrano.
Cyrano. Bravo, bien joué.
Bon, d'accord, ok, je sors.
Non, c'est pas vrai. Elle est nickel. Romain aurait pu la faire, mais tu vois.
Un petit clin d'œil à Romain.
Il nous écoute dans son lit.
Ça.
Et donc, les gars, quel est votre rapport à la science-fiction? Comment vous avez découvert ce genre? Est-ce que c'est par des romans, par des films? Seb, à toi.
Alors moi, j'ai commencé la science-fiction, on va dire, tout simplement grâce à la télévision et grâce à ma sœur qui regardait donc des séries de science-fiction, dont la plus connue, Star Trek.
Ah oui, Star Trek.
Star Trek.
Avec Leonard Nimoy.
Oh yes.
Et ben Captain Kirk.
Kirk. Et puis aussi Cosmos 1999. Donc vraiment là, des séries vraiment plongé dans le futur, mais qui fait un peu rire quand même.
Bah aujourd'hui, ouais.
Oui.
Les ancêtres de ce qu'on connaît aujourd'hui.
Bah, les ancêtres de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis après, bien sûr, moi, ça a été aussi les mangas, et Goldorak, et bien sûr Capitaine Flamme aussi en même temps.
Les animés. Il y en avait énormément.
Si on peut compter aussi Astro Boy, etc.
Albator.
Donc tout ça.
Super, Pablo, ouais. Et toi?
Bah moi, écoute, c'était pareil. Hein, c'est vrai que petit, c'était Goldorak. Vraiment Goldorak. Après, il y a eu effectivement Capitaine Flamme. Il y a eu Cobra aussi. J'adore Cobra.
Oui,
c'est vrai que incroyable. Et puis Albator, évidemment. Ça, c'était mon héros. J'adorais. Et puis, moi, j'ai un oncle qui était assez fan de science-fiction et de BD et qui m'a fait découvrir d'abord les Thorgal. Alors, c'est vrai que Thorgal, c'est les Vikings. Mais... il vient de l'espace quand même. Et voilà.
Le viking de l'espace.
C'est un viking de l'espace quand même. Et puis il y a les dunes. Voilà, mais ça j'étais ado déjà. Voilà. D'accord. Et puis voilà. C'était donc petit à petit je suis rentré dedans comme ça et j'adorais. Et puis bien sûr, j'imagine Star Wars.
Oui. Ouais, bah bien sûr, mais
alors, ça, on a déjà fait une émission spéciale.
On a fait une émission spéciale, c'est pour ça que je l'ai pas cité.
Mais c'est vrai que ça a été fondateur pour tout le monde.
Clairement. Et toi Seb, alors comment ça s'est passé?
Moi je dirais je suis pas un grand fan de science-fiction au départ, mais moi je dirais que c'est Jules Verne. C'est les romans de Jules Verne.
Aussi.
Avec, vous voyez, le voyage au centre de la Terre, parce que c'est un peu de la science-fiction quand même.
Bien sûr.
Enfin, il y en a énormément.
C'est un précurseur.
Donc, j'aimais beaucoup lire et Jules Verne, ça me plaisait énormément. Donc, je pense que ça a démarré un peu comme ça, pour les livres en tout cas. Hein. Mm. Après, beaucoup plus tard, je suis arrivé à Isaac Asimov et tout ça, parce que par un ami, Patrice, qui est un énorme fan, lui, de science-fiction, et qui lisait Isaac Asimov, qui lisait Dune de Frank Herbert, donc qui m'en parlait, voilà. Donc je lui fais un petit clin d'œil s'il nous écoute. Oui. Et puis après, les séries comme vous, hein, la télé, on en voyait énormément, des animés, et puis des séries non animé et qui était un peu kitsch, mais qui était vraiment génial, dont tu as déjà parlé. Et puis le cinéma, évidemment.
Cinéma.
Star Wars, évidemment. C'est un incontournable. Et je disais, j'ai revu récemment Terminator aussi. Et effectivement, il y a l'idée du voyage dans le temps. Enfin, c'est vraiment de la science-fiction. Et puis surtout, d'une dystopie.
Voilà, c'est ça. Incroyable. Et d'ailleurs, il a pas mal vieilli, en fait. Hein.
Il a pas mal vieilli. Ouais. Il a bien vieilli.
Il a bien vieilli. Ouais. Vieilli. C'est ça.
Exactement. Ouais. Ah oui. Alors le premier Terminator, 1984. Ouais. On pourrait se dire bon. Et en fait, il est excellent parce que ça vieillit bien, ouais. Parce que c'est extrêmement bien fait. C'est James Cameron hein, quand même. Mm. Alors évidemment, Terminator 2, là, c'est une autre dimension. C'est vraiment le
meilleur. Ouais, il y a des effets spéciaux beaucoup plus.
Et puis après, c'est moins bien. On va dire qu'après, c'est quand même moins bien.
Bah après, ça devient du commercial. Hein. C'est ouais. Le problème. C'est ouais. Le problème aussi en même temps.
J'ai bien aimé Terminator Renaissance. Je crois que c'est le quatrième.
Oui,
avec Christian Bale. Mais sinon, voilà. Après, on comprend plus rien en fait après l'univers entre les allers-retours entre le passé et le présent.
Ils m'ont un peu perdu parfois un peu.
Ouais, c'est le problème. La science-fiction, c'est bien, mais que ça peut être parfois un peu complexe. Ouais.
Très complexe.
Et puis, ça dépend de quoi on parle. Mm. Est-ce qu'on parle d'anticipation, de dystopie? Est-ce qu'on parle de space opéra? On va en parler.
Ah,
et peut-être qu'on pourrait aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais faire une petite nuance entre science-fiction et fantastique.
Mais oui.
Parce que je pense que quelquefois ça se chevauche un peu.
Ben oui, parce que justement, j'allais me demander quelle est la place de l'heroic fantasy, vous qui êtes assez spécialiste là-dedans.
Ben, à mi-chemin entre les deux.
Ouais, c'est ça.
Justement,
exactement.
Je pense.
Ouais. On est entre la fantastique et la science-fiction, ouais.
Ouais.
Parce qu'il y a la hard science-fiction, c'est-à-dire la science-fiction pure.
Ouais.
C'est-à-dire celle qui parle de science, quoi.
Tout à fait.
Mais c'est pas seulement ça.
Non.
Donc, après une petite pause musicale, nous allons aborder tous ces sujets, si ça vous,
allez, si
ça
vous
dit.
Trop bien.
Nous, on est prêts. Je crois que là, on a très, très envie.
On est chaud.
on est chaud, carrément. Alors, on a trouvé avec Pablo, on a cherché tout à l'heure des titres qui parlent de science-fiction. On en a trouvé quelques-uns. On a eu quelques surprises, dont un titre des Arctic Monkeys. Est-ce que ça vous dit?
Eh bien, allons-y.
Qui s'appelle Science Fiction.
Eh bien, voilà.
C'est dans Mangeek Mafia sur Radio Joatès. Iconography, giving you the creeps. Feel the modern disco lizard, tongue along your cheek. The rise of the machines. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. But the hand of harsh reality's ungrave. It's on its way back here to scoop you up. But not on my watch. I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen. Strange society. Swamp monster with a hard on for connectivity. The ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony. Quantitative easing. I wanna make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages, the way some science fiction does. The way some science fiction does. Got the world on a wire in my little mirror. To write a song to make you blush, but I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. The way some science fiction does. C'était Arctic Monkeys avec Science Fiction dans Bande Geek Mafia.
Yes, yeah, 103.5 la radio qui fait sur Radio Geek.
C'était très, très chill.
C'est cool, hein? Ouais. Ouais, j'adore. Et maintenant, la suite à...
Constant, bitches.
Bah, un petit clin d'œil pour Romain. Bah, Romain, évidemment, un petit clin d'œil pour Romain. Et on espère qu'il reviendra dans 15 jours. Alors maintenant...
Alors ouais, il y a plusieurs sous-genres. Les sous-genres de la science-fiction. Et du coup, bah, à partir de ces sous-genres, on va décliner... voilà.
Des références.
Des références.
De films, de séries, de mangas, romans.
Alors, ça vous dit qu'on commence par l'anticipation?
L'anticipation, qu'est-ce que c'est?
Mais c'est quoi donc l'anticipation?
Bah, c'est quand on se projette dans un futur proche.
C'est ça. Plus ou moins lointain, mais en général proche. Alors, il y a même le near future... Ouais. Qui est vraiment très proche, c'est-à-dire c'est demain quoi, genre Black Mirror,
ouais,
la Black série Black Mirror, c'est-à-dire t'as une technologie, tu la pousses à son maximum et tu vois ce que ça donne demain, mais en fait on y est quasiment déjà.
Moi je dirais que 1984, voilà, George Orwell, c'est le roman d'anticipation et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley,
voilà,
qui parle d'une société proche de la nôtre, qui ressemble à la nôtre, mais qui est dans un futur différent.
Il y en a un autre aussi en même temps, c'est Bienvenue à Gattaca.
Ouais.
Aussi en même temps.
Le film.
Ouais.
Parce qu'on parle à la fois de roman et de film.
Oui, voilà. Dans Joe Nichols, Nicole, qui est un excellent auteur, enfin réalisateur de science-fiction. Hein.
Mais
et oui.
Compris.
Et c'est pas facile. Et dire bleu comme ça.
Mais oui. Alors il y a celui-là. Il y a aussi les films, enfin romans. Roman d'abord de Philip K. Dick.
Ah, Philip K. Dick.
On est dans l'anticipation.
Bah ça dépend de ses romans.
Ça dépend desquels.
Il y a quoi? Il y a Ubik.
Ouais.
Oui, il y a plusieurs.
Alors c'est vrai que moi je pensais à Blade Runner, mais est-ce que
Blade Runner. Bah si. Avec Blade Runner, c'est clairement ça.
Avec les robots, maintenant. Les cyborgs qui sont les réplicants.
Les
vous
réplicants.
Vous
rappelez. Ouais. Et dans le même style, moi je vais retourner sur des films aussi en même temps. Bah t'as aussi Mad Max aussi en même temps. C'est un futur proche apocalyptique.
Voilà.
Mais
là, on est plus dans le post-apocalyptique.
Post-apocalyptique, mais bon, voilà, on est sur de l'anticipation. Il s'est passé quelque chose. La planète des singes aussi en même temps. Donc,
on va faire des listes. Hein.
On va faire des listes. Mais moi,
j'aime bien faire des listes.
Pour les courses, c'est pas mal. Mais par contre, ce qui est assez surprenant aussi en même temps, c'est que dans tous ces films de science-fiction, ces romans de science-fiction d'anticipation, bah, on n'est pas très 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 optimiste quand même pour.
Alors on va
pour
parler de la dystopie juste après.
Ouais. On n'est pas très très optimiste.
Je voulais évoquer parce que on en a parlé en off. C'est un auteur que j'aimais beaucoup qui a fait de l'anticipation. C'est Ray Bradbury.
Oui.
Avec Fahrenheit 451 par exemple. Et puis en France, il y avait René Barjavel.
Mais bien sûr.
Si vous vous souvenez de La Nuit des Temps, des choses comme ça.
Mais oui.
Enfin bref.
Carrément.
C'est énormément de références.
Super références.
Bah on peut enchaîner peut-être tout de suite sur la dystopie puisque c'est en lien.
Parlons de la.
Alors la dystopie, c'est un futur qui lui n'est pas réjouissant.
Non, il n'est pas réjouissant. Non, ça c'est clair. C'est Soleil Vert, par exemple.
Ouais.
Ben, encore une fois, on a quand même pas mal de références où l'avenir n'est pas si beau ni si rose que ça.
Donc c'est un monde utopique sombre.
Sombre.
Donc par exemple, 1984, encore, c'est une anticipation, mais dystopique, on va dire.
Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Moi j'aime beaucoup les romans d'Alain Damasio.
Ah oui.
Son premier, c'était... alors, son chef-d'œuvre, c'est La Horde du Contrevent, mais il est vraiment à part, donc ça, il faudra en parler après. Mais la zone du dehors, qui est plutôt classique, donc ça se passe sur une lune, hein, dans l'espace, voilà, on a une société de contrôle qui s'est installée, il est très sur la société de contrôle. Et puis dernièrement, Les Furtifs. Mmh. On est vraiment dans une anticipation, mais dystopique, c'est-à-dire que là, il imagine la société de contrôle, mais avec ultra connecté... Et comment y échapper avec cet esprit libertaire de la furtivité pour partir, quoi. Essayer de trouver des voies de résilience.
Il est inspiré par Barjavel, donc je reviens sur lui. Parce qu'il y avait vous vous souvenez de Ravage?
Ouais.
On lisait ça au collège, je crois, à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a cette dystopie là de l'ère atomique. Mmh. L'âge de pierre, en fait.
Après, ce qui est intéressant, et je pense que ça rejoint Barjavel, c'est que chez Alain Damasio, c'est que tu es moins sur la technologie, enfin, t'es quand même sur la technologie, bien sûr, mais t'es moins sur la physique.
Mmh. Ouais, c'est plus philosophique.
C'est plus philosophique ou sciences humaines. Parce que lui, c'est de la science humaine fiction, en fait.
Sinon, dans les dystopies, il y a à la fois un roman et une série très connue récemment, c'est La Servante Écarlate.
Ah ouais.
Ah oui, aussi.
De Margaret Atwood.
Ouais.
Alors là, on est clairement sur une société ultra conservatrice, où les femmes sont des esclaves. Enfin,
ouais.
C'est triste, quoi.
Ouais. Il y a une espèce de guerre civile qui s'est installée aux États-Unis avec un gouvernement, comment dire, enfin, plus que fasciste, mais et aussi religieux, fondamentaliste, protestant. Et effectivement, les femmes sont des objets sexuels.
Donc voilà, beaucoup de.
Est-ce qu'on y est
de sombre.
Oui, c'est quand même très très sombre.
Voilà,
hyper sombre.
C'est super d'ombre, sombre. Voilà. On n'a pas beaucoup d'optimistes quand même sur l'avenir de.
Bah ça, c'est parce qu'on est dans les dystopies. Il y a d'autres genres de science-fiction, heureusement. Hein,
heureusement.
Parce que sinon, c'est un peu triste comme je le disais. Donc il y a des romans, il y a des films dystopiques. C'est vrai qu'il y a eu quand même récemment. Une espèce de phénomène de mode autour de la dystopie, mais c'est révélateur, je pense, de la société.
De la société.
Oui, c'est ça. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant parce que souvent, en fait, on se rend compte en lisant de la science-fiction, en regardant des films de science-fiction, des séries, etc., c'est qu'en fait, elle parle parfois plus de notre temps.
Mais oui.
Que de ce qui va se passer, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un révélateur de notre façon de nous voir et de nous concevoir, de concevoir notre évolution, en fait.
Et si on mais je suis tout à fait d'accord. Si, parce que là, on prend par exemple la référence 1984, on est surveillé partout. Si on regarde avec nos téléphones portables, Internet,
Big Brother,
il est déjà parmi nous, puisque on est capable de savoir ce que vous voulez avoir envie, ce que susciter cette envie avec tous les moyens de surveillance.
Seb, toi qui connais en manga, tu connais Akira?
Oui, Akira.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une dystopie ou pas? Pas
vraiment. Bah, c'est une dystopie aussi, oui, quelque part, oui, puisque encore une fois, c'est après des événements post-apocalyptiques, temps. Donc, on retombe toujours sur cet univers un peu sombre. La société n'est pas super géniale, quoi. Parce qu'on fait la différence entre ceux qui sont au bas de l'échelle et puis ceux qui sont au-dessus et qui dirigent, quoi, aussi, en même temps.
Donc, on va essayer de passer à un autre genre de science-fiction, puis après, on fera une pause musicale.
Ouais. Peut-être. Bah, du coup, on peut enchaîner avec le post-apocalyptique, puisqu'on en parlait.
Ah oui, d'accord.
Bah, allons-y.
C'est parti.
Allez.
Bah, vas-y, le post-apocalyptique.
On parlait de. Bah, tu parlais d'Akira. On pourrait parler de Mad Max.
Mad Max,
Les premières. Enfin, je sais pas, dans les années 80, on a eu ça quand même, Mel Gibson.
Donc, post-apocalyptique, on explique quand même, parce qu'il faut qu'on, à chaque fois qu'on explique. Donc, l'anticipation, c'est un futur proche. La dystopie, c'est un futur sombre. Et le post-apocalyptique, c'est après une catastrophe nucléaire, quoi. Bah, ravage de Barjavel.
On y revient.
Mais
je dirais
Mad Max. Nucléaire ou une espèce de pandémie.
Ah oui. Un virus. On appellerait le Covid.
Voilà. qui a transformé la planète en zone inhabitable, quoi.
Le post-apocalyptique.
Alors,
ça me fait penser à Resident Evil.
Oui, mais moi, je pensais aussi à Walking Dead dans ces cas-là.
Oui, c'est ça, mais Resident Evil, c'est des zombies aussi.
Oui, c'est aussi des zombies. Et, la planète des singes aussi. Je reviens aussi sur la planète des singes.
Vraiment.
Bah oui.
Et là, on a à la fois un roman, une série télé et des films.
Alors là, des films, on peut y aller.
Mais je reviens sur Resident Evil parce que c'est intéressant. Parce que, quand même, c'est un jeu vidéo.
Oui.
Au départ.
Ah, c'est un jeu vidéo.
Après, c'est un jeu vidéo. Ils en ont fait un film.
Okay. Donc là aussi, on a un autre média, pour parler de science-fiction. C'est aussi le jeu vidéo. On n'y avait pas pensé.
Le jeu vidéo. Bah, là, généralement, oui. Là, on est vraiment dans des futurs vraiment très, très, très.
Alors moi, il y a un film que j'adore dans le post-apocalyptique, c'est L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, avec
Bruce Willis,
Brad Pitt,
incroyable. Et donc là, on est dans un truc là.
Faut que je le revoie.
La Terre est inhabitable, mais ils essayent. Alors il y a quand même cette idée de revenir dans le temps pour essayer de changer les choses, et que aussi le voyage dans le temps, toujours le thème.
Mais voilà. Alors on a parlé de beaucoup de genres différents. Est-ce qu'il y aurait des chansons de science-fiction?
Oula.
Mais oui, on en a écouté quelques-unes depuis le début. Il y en a d'autres, on va en écouter d'autres. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des albums? Faudrait qu'on réfléchisse à ça. S'il n'y a pas des albums un peu concept qui parlent de science-fiction.
Alors, là, tout à l'heure, tu parlais de Jules Verne et tu faisais référence à un livre, donc Voyage
au centre de la Terre, mais il y en a plein d'autres.
Il y en a plein d'autres, mais celui-là, c'est
20 milieux sous les mers.
Plus particulièrement celui-ci. Ouais. Donc il y avait un artiste qui s'appelle Rick Wakerman, qui avait fait donc tout un opéra rock sur
le. Jouait dans Yes, non?
Ouais. Autour de justement retour du voyage au centre de la Terre aussi en même temps.
Ouais.
Et sur la dernière version de cette space opéra, on avait donc le capitaine, non pas le capitaine Kirk, mais j'ai pas le nom du capitaine de l'Enterprise qui avait pris la suite du capitaine Kirk dans Star Trek, qui faisait la voix de Dieu, qui faisait la voix aussi en même temps, qui disait le texte, qui lisait le texte, et donc on avait de la musique en phase, opéra, quoi, directement, rock opéra qui tournait.
Merci Seb, parce que tu m'as fait penser à une chanson.
Ben voilà, tu vois.
Il y a une chanson de Megadeth, le groupe de thrash metal américain,
ah ouais,
qui s'appelle Dystopia.
Eh ben alors.
Oh bah alors là, on pourrait écouter ça.
On pourrait écouter ça.
C'est pile poil.
Ça vous dit dans Monde Geek Mafia?
Bien sûr.
Radio G?
5.5, la radio,
radio qui fait le point.
Dans Monde Geek Mafia. Tac, ça se termine, c'est superbe.
Et bah, ils
assurent. Oh là 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 là.
La vache.
Et vous êtes prêts?
Ouais. Ah bah on est toujours prêts.
Et nous continuons notre voyage. C'est cérébrale.
C'est le cas de le dire.
Voilà, on continue à parler de science-fiction dans Bande Geek Mafia sur Radio G. Pablo, quel est le prochain sous-genre?
Eh ben, c'est la hard science-fiction.
Alors,
ou hard
qu'est-ce
SF.
Donc? Vous voulez une définition?
Mais allez. C'est quoi donc?
C'est quoi donc? Alors, la hard SF, la hard science-fiction. Attention, ce n'est pas ce que vous croyez.
Non.
Donc,
déjà.
C'est un genre de science-fiction dans lequel les technologies, les sociétés et leurs évolutions, telles qu'elles sont décrites dans le roman ou dans le film, peuvent être considérées comme vraisemblables au regard des connaissances scientifiques au moment où l'auteur écrit son œuvre.
D'accord.
Donc c'est vraiment un roman de science, quoi, qui parle de science, mais d'abord. Alors, ça a commencé dans les années 30 jusqu'en dans les années 50, voilà. Et ça s'est beaucoup développé avec le développement des sciences, les mathématiques, la chimie, la biologie, etc. Par exemple, un exemple les plus courants, hein, c'est... le sabre laser. On pense que ça, c'est possible, donc on se dit art science-fiction. Et en fait, non. On sait que c'est pas possible de. Je sais pas si vous aviez lu ces petites BD géniales qui s'appellent Tu mourras, tu sais
Tu mourras moins bête,
mais tu mourras quand même.
Mais tu mourras quand même.
Et
oui,
donc,
oui.
Ils essayaient de comprendre si c'était possible. Et en fait, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Voilà. Donc, l'art science-fiction, c'est pas le sabre laser, c'est tout ce qui fonctionne vraiment voilà, dans le monde actuel. Alors, il y a plein d'auteurs de art science-fiction. Il y a Arthur C. Clarke, il y a Michael Crichton, par exemple Jurassic Park, parce qu'on peut pas recréer des dinosaures pour l'instant, mais on peut manipuler.
La génétique.
Tout à fait. Donc voilà, donc ça fait partie de la science fiction.
Tout à fait, parce que d'ailleurs, actuellement, ils étaient en train de recréer un mammouth.
Voilà.
Par exemple.
Donc tous les films aussi qui parlent de la conquête de la Lune, avant c'était de la science-fiction. Aujourd'hui,
c'est faisable.
C'est possible. Donc on en connaît d'autres, des auteurs de science-fiction, de art science-fiction. Il y a Isaac Asimov avec les cycles de fondation.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, on se projette dans le futur, mais c'est un futur qui est plus ou moins plausible, en fait. Ou en tout cas acceptable,
complètement.
Rationnellement.
Et ultra rationnel, si ma mémoire est bonne. On est sur un truc très politique dans Isaac Asimov. Et un côté très scientifique, logique, qu'il n'y a pas, par exemple, dans Dune.
Je suis en train de penser à un film, d'un seul coup.
C'est comme moi tout à l'heure.
Comme toi, 2001, Odyssée de l'espace.
Génial.
Là, on rentre dans ce style aussi en même temps.
La preuve,
puisqu'on a la station spatiale internationale.
Non, mais c'est clair.
Donc,
Complètement.
Même s'il y a une dimension très psychédélique.
Mais
parce que ça, c'est l'époque.
C'est l'époque.
Mais tu as raison. En fait, aujourd'hui, c'est tout à fait envisageable.
Ouais.
C'est même plus qu'envisageable, puisque c'est réalisé.
Mais la totalité. Il y a la machine qui prend le pouvoir sur l'homme. Il y a le côté Terminator dans 2001. C'est-à-dire, c'est HAL qui prend le contrôle de la navette spatiale à la place de l'humain. On n'en est pas là, mais pas loin.
C'est pleinement de la hard science-fiction, parce que c'est quelque chose qui serait possible, une intelligence artificielle qui prendrait
L'intelligence artificielle, on est en plein dedans, sur le développement de cette intelligence artificielle.
Par exemple, quand Deep Blue a battu Kasparov,
Et alors moi, ça me fait penser, puisque tu parlais de 2001, Interstellar de Christopher Nolan, qui fait référence, qui est sorte de remake. Là, on est clairement sur les théories d'Einstein, sur le fait que l'espace peut se plier et que ça reste une hypothèse tout à fait théorique, mais trouver ces fameux trous de verre qui te permettraient de voyager, de réduire les distances, en fait, donc d'atteindre d'autres planètes et du coup d'avoir des planètes où t'as un temps, genre tu vas passer 3 heures sur une planète parce que la gravité était près d'un trou noir, elle est énorme. Mais en fait, dans l'espace, t'as passé 23 ans.
Personne ne vous entendra crier. Juste un truc que je voulais ajouter, parce que là, on a plein de médias finalement qui parlent de science-fiction. Par exemple, sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Science versus Fiction. Science vs Fiction, donc la science contre la fiction. Et en fait, on a des scientifiques qui viennent parler de certains films et pour dire si c'est possible ou pas.
Voyez,
donc ça, c'est super intéressant parce que ça correspond à notre hard SF. C'est-à-dire que les scientifiques vont dire si ce qu'on voit dans ce film de science-fiction est possible ou pas.
Intéressant.
Donc chaîne qui s'appelle Science versus Fiction.
Et là, avec ta théorie, là, ce que tu expliquais avec les trous de verre, moi, ça me fait penser à une série quand même, et puis qui a été aussi un film aussi, La Porte des Étoiles.
Oui.
Aussi en même temps, puisque là, on voyage,
Stargate. La Porte des Étoiles. Stargate. Par exemple, il y a sur la chaîne Science versus Fiction, il y a un astrophysicien qui analyse des films sur l'espace. Moi, je vous conseille d'y aller.
Clairement. Et puis, tu vois, il y a ce truc aussi qui est paradoxal, c'est le fait que quand tu voyages, l'accélération va faire que le temps passe non, mais plus
on
lentement.
On voit qu'il est fan de Christopher Nolan.
Tu vois, le temps va passer plus lentement que celui qui est resté sur Terre. C'est le fameux paradoxe des jumeaux. D'accord. Mais bon. Voilà, pour vous dire que
on avance
la science
dans notre. On en a combien encore
Ben ouais, parce qu'on en a encore 4.
Ah ouais, alors on y va. Le Space Opera, c'est parti.
Space Opera ou Space Planet. Bah oui, Star Wars.
Bon alors, Star Trek, Star Wars, la bataille des planètes. Bah
ouais. Et moi, je vais vous parler de Capitaine Flamme, quand même.
Vas-y.
Tiens à ce Capitaine Flamme, parce que, bien sûr, tout le monde connaît le manga, tout le monde connaît l'animé, et d'autant plus que là, actuellement, un auteur a réédité, a refait une version de Capitaine Flamme aussi, qui est très très intéressante, je vous la conseille. Mais il faut pas oublier que Capitaine Flamme, à la base, c'est un roman qui date des années 30, puisque l'auteur, c'est Edmond Moore Hamilton, qui est donc un écrivain de science-fiction aussi en même temps et qui a donc œuvré autour de ce Capitaine Flamme, mais qui a aussi travaillé pour DC Comics au début de Superman aussi en même temps. Donc vous voyez, on retrouve tout cet univers, voilà.
Donc alors, c'est le voyage dans l'espace,
c'est
l'exploration des planètes et la description des civilisations intergalactiques.
Tout à fait, tout à fait. Parfait. Alors par contre, quand vous lisez le roman, oubliez complètement ce que vous avez vu aussi en même temps avec le manga, hein, parce que là c'est deux univers totalement différents.
Ah oui, d'accord. Tu veux dire qu'ils ont vraiment interprété là.
Ouais, ils ont interprété, ouais. Puis on a les descriptions.
Ah bon, il y a pas tous nos amis.
Si, il y a tous nos, il y a tous les personnages, mais par contre les descriptions. C'est pas tout à fait ça, quoi. On voit que là, on est repassé sur du dessin. Quoi.
Alors, on a toujours Isaac Asimov hein, dans cette catégorie. Dan Simmons, Frank Herbert, évidemment. Mais il y a plein d'autres auteurs qui ont écrit des space opéras. Moi, j'en connais pas énormément d'autres, mais est-ce que vous en connaissez? Des films de... Ah, c'était quoi ce film-là avec, c'était Georges Clooney, là? Non? Si? Dans l'espace.
Seul sur Mars?
Non. Ah ouais, non. Alors, Seul sur Mars.
Ah non, toi tu parles de Gravity.
Oui, Gravity. Est-ce que c'est du space opéra? Pas vraiment?
Pas tout à fait. C'est une sorte d'anticipation peut-être.
Ouais, d'accord.
Ouais. Mais par contre, moi ce que je trouve intéressant, si on revient par exemple sur Star Wars et Dune, parce que Dune a inspiré quand même Star Wars, mais comment dire? Moi ce que j'aime beaucoup dans Star Wars, parce que c'est un truc qu'on n'avait pas dit dans la première émission, mais c'est que en fait, les vaisseaux sont toujours un peu déglingués. On est toujours en train de bricoler. C'est une sorte d'apologie de la bricole. C'est-à-dire qu'on bricole.
C'est pour la rébellion.
Mais c'est ça.
L'Empire a des super vaisseaux intergalactiques.
Voilà, alors ils ont des vaisseaux impeccables. Mais alors les autres sont toujours en train de bricoler les robots, On a l'impression des vaisseaux incroyables, le Faucon Millennium. Mais c'est un peu des vieilles casseroles. Il faut bricoler. T'as pas une hyperdrive, t'as pas un machin. Et c'est vrai que c'est un peu hallucinant.
Est-ce que vous connaissez Hyperion? De Dan Simmons, parce qu'apparemment c'est un super roman de
alors,
space opéra.
Moi, c'est une référence que j'ai lu le premier. Il est très très bien. Et il faut suivre après.
Tu connais Hyperion alors?
Ouais, c'est vraiment super.
Ah super. Ah,
ouais. Et c'est vraiment à connaître.
Moi, je parlerai aussi d'une série qui date hein, quand même, parce qu'elle est surtout connue en Angleterre. C'est la série Doctor Who.
Ouais, Doctor Who, c'est très très célèbre en Angleterre.
C'est très célèbre en Angleterre.
Ça existe depuis
1963.
Voilà.
Et c'est toujours d'actualité. On continue encore.
C'est le voyage dans le temps. C'est...
Ouais.
D'accord.
C'est fou. Hein.
C'est fou. C'est complètement fou.
On avance parce qu'il est 46.
Eh ben oui.
Alors. Le prochain, c'est l'Uchronie.
Ah.
Alors
l'Uchronie, c'est...
Qu'est-ce que l'Uchronie, messieurs les historiens?
Et si? Alors ça, c'est Philippe Kédic, par exemple, avec le maître du Haut-Château, qui imagine que les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, voilà. Mais alors c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire.
Voilà. Qui a changé le cours de l'histoire.
D'accord.
Mais et, par exemple, ça, il a une série de BD géniale.
Jour J. Qui n'est que passé sur des faits réels, donc, mais sauf qu'à un moment, il y a une distorsion, donc justement, et on prend une porte dérobée de l'histoire.
D'accord.
Et du coup, on écrit une autre histoire.
Donc c'est un récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique. Voilà. L'Uchronie. Donc c'est un genre qui a beaucoup de succès actuellement, c'est vrai. Hein,
ouais.
Il y en a énormément d'œuvres uchroniques, on va dire ça. Mmh. Alors, bon. Il y a ceux qui imaginent la victoire des nazis, bon, ok. Mais après, il y a plein d'autres possibilités. Par exemple,
des nazis sur la Lune.
Si Napoléon avait gagné les guerres napoléoniennes.
Ouais, d'accord.
Ben oui, par exemple. Ouais. Voilà. Enfin, il y a énormément de choses. Vous connaissez Sliders, les mondes parallèles?
Oui.
C'est une série.
Oui.
Enfin voilà. Et ben en fait il y avait cette dimension uchronique là-dedans. Bon, il y a le maître du haut château de Philippe K. Dick, évidemment. Complot contre l'Amérique de Philip Ross aussi. En fait il y a plein d'exemples comme ça qui dans la culture populaire en fait.
Est-ce qu'on pourrait dire que le Inglourious Basterds de Quentin Tarantino ça.
Ah ben oui, puisqu'on tue Hitler.
Oui, oui, alors si, sur si. La fin, oui, oui.
Si, c'est... si, sur la fin du film, ouais, ah, complètement. Oui. Mais même Once Upon a Time in Hollywood, oui, en fait, il reprend l'histoire.
Il réécrit l'histoire de Charles Manson.
Exactement. Ouais. Donc, ouais, c'est What If. En fait, on dirait, ouais, dans Marvel, il y a une série qui s'appelle What If.
Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et l'Uchronie peut nous trouver aussi, quoi, on peut retrouver, mais alors là, ça n'a rien à voir du tout avec la science-fiction, mais c'est juste une Uchronie aussi assez intéressante. Par exemple, sur la saison 14 de Dallas aussi, en même temps.
Ouais.
Non mais voilà,
avec JR. Et
ouais,
moi je pensais plutôt, il y a une BD de Mark Millar que j'aime beaucoup, c'est Superman Red Son. Il imagine que Superman, donc qui est un extraterrestre qui tombe sur Terre. Mmh. Il n'est pas tombé aux États-Unis, mais il est tombé en URSS. Donc Superman devient le héros communiste par excellence, quoi, le super-héros communiste. Et c'est une BD qui est vraiment vraiment géniale, quoi. Donc il n'est pas tombé au Kansas, il est tombé en Union soviétique.
D'accord.
Et il devient Superman Red Son.
Comme la version de Captain America. Soviétique là, comment il s'appelle déjà?
Ah, ça je connais pas, je connais Superman.
C'est dans les Avengers. Mais bon, voilà.
Bien, les gars, on avance.
Un autre style, bah alors cette fois ça va être le steampunk.
Ah, le steampunk.
Ah ouais, alors ça c'est très particulier.
C'est très particulier ça. Qu'est-ce que le steampunk? Alors steam ça veut dire vapeur, la machine à vapeur.
Ouais, alors le steampunk c'est un genre littéraire issu de la science-fiction, donc on est bien dedans. Qui est un peu particulier parce que en fait c'est un peu une culture à part entière. C'est un mélange de futur et de passé.
C'est ça.
Voilà. Donc on va beaucoup s'inspirer du 19e siècle, de l'époque victorienne, de la révolution industrielle. Il y a des machines à vapeur, etc. Donc c'est le punk à vapeur, ça veut dire steampunk.
Ouais, c'est ça.
Il y a aussi le cyberpunk. Ouais. Peut-être qu'on pourrait regrouper les deux.
Alors on va en parler un peu.
Mais le cyberpunk après, c'est la suite, ouais, du steampunk. En fait, le steampunk c'est vraiment rétro-futuriste.
Ouais.
Voilà. Et le cyberpunk, ça va un peu plus loin. Mais steampunk, donc, on est entre le fantastique, la fantasy, l'anticipation. Enfin, c'est un peu un mélange de tout ça. Hein. Et moi, je ne suis pas un grand spécialiste de ça, mais est-ce que vous connaissez des œuvres steampunk?
Alors, moi, je connais des bandes dessinées steampunk. Ah. Donc, Le Voyage Extraordinaire de Filippi et Camboni.
Je pense à Jules Verne, moi.
Oui, bah oui, mais c'est, ouais, ça s'inspire aussi en même temps. Ça s'inspire énormément. Il y a aussi le voyage dans les étoiles aussi, qui est aussi une série bande dessinée qui est sortie assez récemment. Il y a plusieurs bandes dessinées comme ça.
H.G. Wells là, qui a fait, c'est lui qui a fait La Machine à remonter le temps. Là.
Oui.
Finalement, c'est un peu l'origine aussi de tout ça.
C'est un peu l'origine.
Ouais.
Et dans le steampunk, puisqu'on est parti là-dessus aussi en même temps, alors là, je vais vous parler d'un animé qui va vous parler tout de suite. Ken le Survivant, univers steampunk. On est des punks, hein.
Ouais, c'est vraiment, t'as raison.
Bah oui. Et Mad Max, pareil aussi en même temps. C'est cet univers, quelque part.
Il y a quand même du post-apocalyptique, mais alors du coup, on revient à.
Ah bah, on revient, on est obligé de produire de l'énergie, et qu'est-ce qui est plus facile de produire de, bah, c'est de
la vapeur.
La vapeur.
Ouais, tout à fait. Et alors, moi, ça me fait penser aussi à Hayao Miyazaki.
Oui. Bien sûr.
Le voyage.
Le château ambulant.
Bien sûr.
Ouais, ok.
Est-ce qu'on enchaîne direct avec le cyberpunk qui mélange cybernétique et punk? Parce qu'en fait, c'est ça.
Mais c'est ça.
Donc, c'est un mélange de dystopie, de hard science-fiction, en fait.
Ouais.
Parce que cybernétique. Donc, il va y avoir des robots dans cette histoire.
C'est ça.
Clairement. Est-ce que vous avez des références par rapport à ça? On n'est pas cyberpunk, on n'est peut-être pas à fond là.
Alors,
j'en ai un.
Génial.
Ghost in the Shell.
Ah ouais.
Magnifique.
Excellent.
C'est magnifique.
Alors, le film, super la animé. Série, ouais. l'animé, ouais, le film aussi.
Le avec, film est pas mal en fait.
Avec Scarlett Johansson.
Mais Blade Runner, les gars. On peut mettre ça là-dedans.
Ah, bien sûr,
tout à fait.
Il y a aussi New York 1997 de John Carpenter, parce que je suis un gros fan de Tron.
Tron.
Ça fait.
Robocop.
Robocop.
Oui, en fait, on en a plein.
Ben, on en a plein.
Mais oui, Total Recall.
Ben, Total Recall.
Ah oui.
Oh là là, mais.
Alors, Total Recall, quelle je version aussi
J'adore
le remake ou la première version?
Moi, je préfère la première.
Je préfère beaucoup.
Ouais, moi, je connais pas le remake, en fait. Je connais le roman de Philip K. Dick et puis le film de Paul Verhoeven.
Ouais.
Avec Schwartz.
Pourtant, dans le remake, il y a quand même un acteur que l'on adore.
Oui, je connais pas le remake.
Walt. Brian Cas.
Bryan Cranston.
Cranston, oui, merci. Ouais. Voilà, je cherche mes mots. Qui joue le méchant, là, cette fois-ci. Mais même avec lui, je ne peux pas.
Et les gars, où est-ce qu'on met Matrix ?
Mais moi, je le mettrais justement dans le cyberpunk.
Ouais, hein, je pense aussi.
Ouais, justement. Pour moi, c'est un film alors qui est quand même marquant. Il faut en parler un petit peu parce que c'est quand même quelque chose qui a relancé l'univers du cyberpunk en 99. Et puis après, il y a eu la tétralogie. Hein. Mais il y a cette innovation technologique avec le bullet time. Et puis, c'est un film qui est bourré de mythologie, de philosophie. Enfin, c'est un truc assez incroyable, Matrix.
Surtout le dernier épisode. Alors là, on est dans la philosophie à l'état pur.
Ouais, complètement.
Je trouve même que c'est moins bien réussi.
Le quatrième est un petit moins bien.
Le quatrième, on n'en parle pas. Là, on oublie. Hein. Ouais. on oublie. Là, ils avaient besoin d'un petit peu d'argent.
Est-ce que ça vous dit, les gars, qu'on fasse une petite pause musicale avant la fin de l'émission ?
Clairement.
Allons-y.
On va écouter un petit groupe de punk rock américain, parce qu'on parlait de cyberpunk. Tu vas le lire. C'est Me First and the Gimme Gimmes dans Bug. Geek Mafia
sur Radio G 105.5.
La radio. La radio.
First and the Gimme Gimmes avec Science Fiction Double Feature dans le Geek Mafia sur Radio G.
On était dans le punk.
Woo! On aime ça. C'était pour Florence.
Yes, on embrasse bien fort.
Allez, c'est parti.
La cantina.
Alors Seb, rapidement, on a oublié Ready Player One.
Oui, Ready Player One. Alors là, si vous pouvez le regarder, regardez-le. C'est un film de
Steven Spielberg.
Steven Spielberg, qui est une adaptation aussi d'un roman de science-fiction qui s'appelle Player One, qui a été écrit par Ernest Cline.
Et qu'on peut voir en replay.
Qu'on peut voir en replay.
C'est ça. Donc, aussi. Voilà. C'est un film qu'on peut voir en replay gratuitement sur la télévision.
On peut le trouver.
Pablo, tu voudrais terminer l'émission en parlant de Cronenberg et de The Substance Actualité.
Oui, d'accord. Alors Cronenberg, parce qu'effectivement, il y a une certaine originalité dans ces films. Alors, notamment, moi, je pense à Existence, où on est à la fois dans l'univers du jeu vidéo, interconnecté à travers, mais alors à travers le corps. Directement,
et
on
la
est
mouche,
dans.
La mouche.
Et ben, la mouche aussi, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est dans l'organique, on est dans le bio. Et donc, c'est une autre façon d'aborder la science-fiction. Et alors, dernièrement, j'ai vu, ma fille nous a emmené voir The Substance.
The Substance.
Qui est alors, c'est du body horror.
Ouais.
Alors, les gars, là, âme sensible, s'abstenir si vous n'aimez pas le saignement, tout ce qui a trait à la chair, à la substance. C'est assez terrible, mais par contre, un jeu d'actrice incroyable. Le scénario est vraiment super original.
Il y a deux Mimours. Elisabeth Qualy.
Voilà, elles sont incroyables. Et alors vraiment,
réalisatrice française.
Tout à fait. Qui s'appelle Coralie Farja. Et vraiment, vraiment super intéressant, original. On est quasiment plus sur le film d'horreur, hein.
Oui.
Et on est entre l'horreur et la science-fiction, mais c'est incroyable. Et c'est un film qui parle beaucoup, évidemment, de l'image, de ce monde de l'image dans lequel.
C'est une femme célèbre qui ne veut pas, enfin, c'est pas qu'elle veut pas vieillir, c'est qu'on lui renvoie son âge.
C'est ça.
Et donc elle trouve une substance pour rajeunir un peu.
Exactement. Exactement. Sauf que ça va pas très très bien se passer. Et je n'en dis pas plus.
C'est une musique qui fait partie de la bande originale du film.
C'est ça. La musique est excellente. Franchement, là aussi, il y a une bonne trouvaille.
D'autres actualités, The Substance ou autre chose? Moi, j'ai vu une série, alors du coup, comme il reste une minute, ça s'appelle Love Me, ça n'a rien à voir. On est sur l'actu. Love Me, c'est sur Arte TV, c'est gratuit. C'est une série qui parle d'amour, qui parle de famille. En fait, tout démarre avec le décès de la mère de famille. Donc le père se retrouve veuf. Il a trois enfants. Non, pardon, il a deux enfants, excusez-moi, mais parce qu'il y a beaucoup de personnages. Il a deux enfants, une fille aînée et un fils qui est plus jeune. Et en fait, on va suivre le parcours de ces trois personnages, voilà. Le père et les deux enfants, suite au deuil de la mère. Mais c'est pas si triste que ça, en fait. Ça parle beaucoup de famille, d'amour, d'amitié, etc.
C'est très humain.
C'est très humain et c'est une série suédoise.
D'accord.
Voilà. Love Me sur
Arte. Intéressant, ouais. Et c'est bien de finir sur une petite touche humaine, plus optimiste.
Avec une musique qui est plutôt mécanique.
Ouais, clairement.
C'était Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, un mercredi sur deux sur Radio G.
Et alors, dans 15 jours, on revient avec les super-héros.
Les super-héros.
Oh là là.
Oh, les choses à dire, là, les gars.
Alors là, les Marvel, DC Comics.
DC Comics, on est parti.
Les BD, les films.
Une heure d'émission ne sera pas suffisante.
Non, mais c'est jamais suffisant. Mais on est bien sur Radio G. Restez à l'écoute, tout de suite c'est Rudy's Back. On fait un coucou à Romain, à Florence, à Sarah, à Estelle.
À tout le monde. Ceux qui nous écoutent, bisous à tout le monde.
Et à dans 15 jours.
Bisous.
Salut.
Ciao.
FM. Radio-G.